listening to RockKick.com.
Don't make me destroy you.
Veuillez saluer le maréchal Ismaël Trépanier.
Wesh!
Pour l'Amérique du Nord.
Midi à 16h pour l'Europe.
The Punisher.
Chris Desmond.
Corrélation. Patrick Lamarche.
www.rockkick.com, il est 7h présentement. On se connecte à l'honorable Claude Reichmann, Dr. Reichmann, dans les secondes qui suivent. Ça a brassé très fort hier concernant le 52e boulevard, 52 boulevard Malesherbes, colis qui a explosé. Je ne sais pas si M. Reichmann aura... Bonjour M. Reichmann, comment allez-vous? Comment allez-vous, M. Reichmann?
Ça va très bien. Et vous-même, M. Trépanier?
Oui, ça va super. Ça déménage. Ça déménage ici.
Très bien. Oui. Vous avez changé de métier, alors?
Ah oui, exactement.
Dans le déménagement.
Oui. Pour commencer tout de suite, M. Reichmann, il s'est passé quelque chose d'assez grave. Peut-être que vous avez des informations supplémentaires, vous, de votre côté, ou vous êtes à peu près au même stade que moi. Avec ce colis suspect... il y a eu une première explosion sur le 52 boulevard Malesherbes. Un cabinet d'avocats, oui. Anciennement celui de Nicolas Sarkozy, maintenant aujourd'hui Claude, c'est Arsenault ou quelque chose comme ça?
Claude Arnault.
Claude Arnault, merci, M. Reichmann. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires à nous livrer? Qu'est-ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant?
Les dernières que nous avons eues concernent une personne qui a été... placé en garde à vue, ce serait, paraît-il, un architecte qui, je suppose que c'est cette personne qui avait, ou contre qui plutôt, une des avocates de ce cabinet avait porté plainte pour harcèlement, je crois. Et donc, c'est évidemment le premier suspect, mais ça n'implique absolument pas qu'il soit réellement coupable. Je crois que c'est une mesure qu'a prise la police par méthode, hein. Mais pour le reste, on ne sait pas, et ce qu'il y a de très important, c'est de savoir, et ça on n'arrive pour l'instant pas à le savoir, en tout cas pas nous, si le colis était bien destiné d'une manière écrite et claire à ces deux avocats, c'est ce qu'on dit, mais jusqu'à présent on ne nous a pas confirmé la chose, ou bien s'il ne portait pas d'indication, auquel cas le coursier aurait pu commettre une erreur d'étage. Et à ce moment-là, rien n'indiquerait que ce ne soit pas éventuellement le cabinet de M. Sarkozy, qui est toujours associé d'ailleurs dans ce cabinet, mais enfin il a cédé ses parts à titre temporaire pendant l'exercice de son mandat à son associé M. Arnault. Mais enfin,
Monsieur Reichmann, juste de déplacer Monsieur Reichmann votre micro pour qu'il ne soit pas trop près de votre bouche parce que ça poffe beaucoup.
Ah, d'accord. Et là maintenant, ça va mieux?
Oui, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Alors, je vous laisse poursuivre sur la lancée. Je m'excuse de vous avoir interrompu.
Non, mais vous avez raison. Il ne faut pas que... je vais essayer de le mettre un petit peu plus loin. Là. Ça va mieux, là, comme ça?
Oui. Ah, c'est parfait, là.
Vous m'entendez bien, là?
Très bien.
Bon. Alors, donc, je vous disais que M. Sarkozy a cédé, à titre temporaire, ses parts dans ce cabinet parce qu'il exerce la fonction de président de la République et c'est incompatible avec l'exercice du métier d'avocat. Mais je lisais là dans la presse que ce cabinet, du temps où M. Sarkozy en était membre, recevait souvent des petits cercueils, des menaces. Enfin, il y avait même eu certaines manifestations qui s'étaient déroulées des gens qui avaient essayé d'envahir, je crois, les lieux. Enfin bref, c'est un cabinet qui n'est pas indifférent. Et alors, le point majeur de cette affaire, mais sous réserve bien sûr de ce que la police va pouvoir découvrir, c'est le fait de savoir si le colis piégé était bien nommément adressé aux deux avocats qu'on a cités, c'est-à-dire ceux chez lesquels s'est déroulée l'explosion,
okay.
Ou bien si tel n'était pas le cas. Alors ça, si tel n'était pas le cas, on peut en déduire qu'il a pu y avoir une erreur de destinataire, et auquel cas on ne peut pas écarter le fait que c'était l'ancien cabinet de M. Sarkozy qui était visé. Je n'en sais évidemment rien, pas plus que personne. Il n'y a que la police qui peut savoir certaines choses maintenant, mais je pense qu'on devrait quand même assez rapidement avoir des éléments, parce qu'il semblerait qu'on ait réussi, sinon à identifier, du moins à voir, car il y avait des caméras de surveillance, la personne, c'est une jeune femme, paraît-il, qui a livré le paquet. Et pour le reste, il ne semble pas que ce soit une société de livraison. J'imagine que la police s'est immédiatement précipitée.
Oui, parce qu'il y a soi-disant un commis de course ou quelque chose comme ça qui est allé déposer. Mais c'est quoi cette histoire de cassette en bois? J'ai entendu, c'était pas j'allais dire le préfet, M. Reichmann, mais c'était le procureur, hein, c'est bien cela?
C'était le procureur de Paris. Monsieur Marin, qui effectivement a déclaré cela, mais là, le fait que c'était une cassette en bois n'a pas beaucoup d'importance.
Non, c'est ça.
Il était enveloppé, cette cassette était enveloppée dans du papier, j'imagine, et alors ce qu'on ne sait pas, est-ce que semblait chercher la police, sans les traces d'une adresse éventuellement, mais pour l'instant, vous savez, on a toujours le sentiment, comme toujours dans ces affaires, qu'on ne dit pas vraiment la vérité. Alors s'il s'agit de ne pas dire des choses qui peuvent nuire à l'enquête, ça on le comprend très bien, mais d'un autre côté, est-ce qu'il s'agit vraiment d'enfumer un petit peu le public, parce que hier j'ai entendu ou vu des informations assez contradictoires. Dans certains cas on nous disait que les destinataires étaient bien ceux-là, dans d'autres on nous disait qu'on n'avait pas réussi à lire, ni à retrouver les morceaux de papier éventuels sur lesquels étaient inscrits les adresses. Enfin bref, la première démarche, si vous voulez, hier, des autorités, a été de dire qu'en toute hypothèse, ça n'est pas politique, et deuxièmement, que ça n'était pas l'ancien cabinet de M. Sarkozy qui était visé. Alors là, cet empressement me paraît toujours pas spécialement cette fois-ci, mais un petit peu suspect. De même que lorsqu'il y avait eu une explosion à l'usine de Toulouse, à l'usine de AZF, il y a de cela, c'était en 2001, donc c'était encore en septembre 2001, eh bien, on s'était empressé de dire, mais dans les minutes qui avaient suivi, que ce n'était pas un attentat. Alors, personne n'en savait rien, y compris, bien entendu, le procureur de Toulouse et le Premier ministre, M. Jospin, à l'époque, qui avait l'un et l'autre décrété que ce n'était pas un attentat, parce qu'il ne fallait pas que ce fût un attentat, étant donné que, dans ce cas-là, il pouvait y avoir des réactions très vives de la part de la population, enfin bref, des éléments incontrôlables auraient pu se manifester. Et là, c'est une forme de communication qui n'est absolument pas acceptable, parce qu'on peut parfaitement admettre que, dans l'absence de preuves ou dans l'absence d'informations, le gouvernement le dise, tout simplement, le gouvernement ou les responsables. En revanche, ils ne doivent pas désinformer. Alors, la désinformation, ça consiste précisément à lancer des éléments qui ne sont pas vrais, en tout cas pas avérés. Donc, pour l'instant, il faut attendre.
Et, Monsieur Reichmann, il y avait aussi un autre détail que j'ai trouvé spécial, c'est de voir l'armée s'en mêler et même de parler d'une voiture piégée. Est-ce que vous aviez eu cette information?
Oui, effectivement, il y a eu en effet un déploiement de forces militaires, et c'est ce qui rend d'ailleurs les choses, là encore, un tout petit peu suspectes.
Oui.
Parce que très vite, on a su qu'il s'agissait non pas d'une bombe qui aurait explosé dans la rue, d'une voiture piégée, mais bien d'un colis piégé. Et l'explosion a eu lieu à 12h50, et donc on l'a su tout de suite de quoi il s'agissait. Par conséquent, le déploiement militaire est assez curieux. On se demande s'il n'y a pas eu derrière tout ça éventuellement des informations qui pouvaient faire craindre, par exemple, que cette première explosion soit suivie d'une autre. Enfin, vous savez, c'est dans ce genre d'affaires, il est normal qu'on se méfie beaucoup.
Je
ne critiquerai jamais le pouvoir ou la police ou l'armée de prendre des précautions. Enfin, le gouvernement, en l'occurrence, c'est lui qui a décidé. Mais ces précautions doivent être prises. En revanche, elles ne doivent pas être contradictoires avec la communication qu'on en fait.
Il y a aussi, on vient de me donner ce détail-là, M. Reichmann, une usine chimique qui avait explosé peu de temps après les attentats du 11 septembre en France, et c'est le 11 septembre en France. Des morts et blessés, plus gigantesques dégâts.
Oui, c'était ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'usine AZF de Toulouse.
Toulouse, ça.
Qui avait de Toulouse, il y avait des centaines et des centaines de victimes, plusieurs dizaines de morts et des centaines, voire des milliers de blessés, des destructions énormes. Et immédiatement, comme je vous le disais tout à l'heure, le procureur de la République, le gouvernement, tout le monde avait déclaré qu'il ne s'agit pas d'un attentat. Aujourd'hui, on ne le sait toujours pas. C'est-à-dire qu'il y a eu des enquêtes, mais ces enquêtes sont vraiment sujettes à caution parce qu'elles se sont faites dans des conditions très critiquables. Et bon, il y a eu énormément d'éléments qui n'ont pas été retenus. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas s'il y a eu une ou deux explosions. Et la plupart des témoins sont formels, il y en a eu deux. Or, la thèse officielle est qu'il n'y en a eu qu'une seule. Enfin bref, tout ça pour vous dire que quand il y a des sujets de ce type, on est en France, en tout cas, confronté systématiquement à la désinformation. Alors, elle n'est pas légitime, à mon avis. Ce qui est légitime, c'est la prudence. Ce qui est légitime, c'est les mesures de précaution qu'on doit prendre. Mais la désinformation n'est pas convenable dans une démocratie. Et je crois que le pouvoir doit absolument se défier de ce genre de choses. Et là, je peux vous dire que hier, dans l'après-midi, on a raconté à Paris n'importe quoi.
Probablement, parce que justement, avec le, c'est ce que le stress a dû causer, et l'émoi qui a dû être causé avec toute cette situation. Il est normal qu'il y ait toujours des spéculations erronées et qu'en bout de ligne, on se retrouve avec un paquet d'hypothèses, un trop grand nombre d'hypothèses qui vont nulle part. Et justement, nous ici au Canada, on analyse, on a même téléphoné le préfet, au préfet de police, au service des Parisiens. Il ne voulait pas nous donner d'informations. Et après ça, on nous a renvoyé au palais de justice, M. Reichmann, bien sûr, de Paris. Et on nous a demandé une information, adresse courriel, coordonnée, pour au cas où il y aurait conférence ou communiqué. Et jusqu'à maintenant, on est revenu bredouille. On n'a absolument rien qui nous confirme.
Nous n'avons rien pour l'instant, rien d'autre que ce que la police a indiqué. Et cette garde à vue d'une personne qui, comme je vous le disais, a été, semble-t-il, en relation avec un des avocats contre laquelle, c'est une dame, cette avocate avait porté plainte contre cette personne, et qui, semble-t-il, est un architecte, mais il était en garde à vue dès jeudi soir parce que cette affaire avait donné lieu à une plainte en bonne et due forme déposée par l'avocat, et par conséquent il n'a pas été difficile de l'identifier. Mais ça n'implique évidemment pas qu'il soit coupable. Ça, pour l'instant, on n'en sait rien.
On me donne aussi comme information concernant l'histoire de Toulouse, le cadavre en morceaux d'un Tunisien avait été retrouvé avec des couches multiples sous ses vêtements. Et ça pourrait être un signe, mais encore là, vous me dites, vous, M. Reichmann, qu'il n'y avait pas eu de débouché sur cette histoire, que ça s'est terminé. Est-ce qu'on peut dire en queue de poisson, il ne s'est passé absolument rien dans ce dossier?
Si, si, il y a une enquête qui s'est déroulée, qui est pratiquement close, je crois. En tout cas...
Sans suspect.
Quasiment bouclée. Non, alors ce serait un accident, d'après eux. Effectivement, on a beaucoup dit qu'on avait trouvé le cadavre d'un Tunisien vêtu de plusieurs sous-vêtements, ce qui, paraît-il, serait une marque assez distinctive des kamikazes d'origine arabe. Mais tout cela est resté assez embryonnaire. On a des informations qui sont toujours très partielles, et je peux vous dire qu'il y a toujours un grand doute sur la thèse officielle qui voudrait que cette explosion soit purement accidentelle. Moi, je ne suis pas de ceux qui voient des attentats partout, mais je vous dis simplement que quand on, en tant que citoyen, quand on me présente une explication, j'ai tendance à me demander, en faisant appel à ma logique ou à les informations que je peux avoir par ailleurs, si cette explication est vraiment la bonne. Or, dans cette affaire, à chaque fois que les pouvoirs publics ou la justice se sont exprimés, à chaque fois, tout le monde pouvait émettre les plus grands doutes parce qu'on avait beaucoup d'informations qui allaient à l'encontre de la thèse officielle. Et ça, c'est vraiment une chose extrêmement, non seulement désagréable, mais qui est totalement antidémocratique, parce qu'on ne doit pas raconter n'importe quoi aux citoyens.
Comment
voulez-vous qu'un citoyen ait une opinion si à tout moment on lui bourre le mou? C'est pas possible.
Et là, moi, il y a quelque chose, il me fascine à tous les jours. Nicolas Sarkozy, qui je l'appelle le showman. Ah oui, il adore.
Il mérite son nom.
Ah oui, hein, il est le showman, il adore le. C'est un homme de spectacle tellement là.
Je... oui, oui.
Parce que je dis ça parce qu'il a fait il a tenu un discours avec l'histoire de Ingrid Betancourt. Ça fait tellement longtemps qu'elle est aux prises des forces là-bas. Et est-ce que ça a servi vraiment à quelque chose? Ça donne quoi aux Français de savoir que Nicolas va essayer de libérer Ingrid Betancourt? Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup plus l'impression qu'il s'attaque à des choses qui sont, à titre de président de la France, je crois que c'est pas essentiel. Je crois que c'est beaucoup plus de la poudre aux yeux des Français au lieu de s'attaquer au vrai problème, c'est-à-dire l'économie. Je trouve qu'il en parle pas beaucoup, de l'économie. Je trouve qu'il...
Vous avez raison, il en parle un peu quand même, mais...
Juste
ce qu'il faut pour ne pas dire qu'il n'en a pas parlé. Mais Nicolas Sarkozy, depuis qu'il fait de la politique, a tout misé sur les médias. Et donc, sa devise, c'est un événement médiatique par jour. Et il l'a mise en pratique pendant tout le temps où il a été ministre de l'Intérieur, puis un peu ministre de l'économie et des finances, puis de nouveau ministre de l'Intérieur.
Exact.
Il a fait exactement la même chose pendant sa campagne présidentielle et il continue. Alors là-dedans, vous avez de tout. Vous avez certaines actions qui peuvent être éventuellement positives et puis vous en avez d'autres qui sont d'une part très risquées ou même parfois très discutables. Dans l'affaire Betancourt, bon, il ne faut pas oublier que c'est une citoyenne française par mariage, n'est-ce pas? Donc la France a quand même une certaine responsabilité vis-à-vis de ses citoyens. Mais d'un autre côté, on ne peut pas ne pas noter que dans l'affaire du Tchad, de ce groupe qui avait voulu ramener des orphelins ou de pseudo,
oui,
ou de pseudo orphelins, et donc nous avons toujours là-bas des prisonniers, 5 à 6 prisonniers.
Oh. Oh.
Il semblerait que M. Sarkozy s'en soucie moins. Il a promis qu'il allait les ramener, mais pour l'instant, il ne les ramène pas, si vous voulez. Et donc, l'Arche de Zoé, c'était le nom de ce groupe, a toujours ses membres qui sont prisonniers des autorités tchadiennes, alors même qu'on ne sait pas s'ils sont réellement coupables ou pas coupables, et qu'en tout cas, M. Sarkozy a laissé sur place des gens qui sont des citoyens français également, alors qu'il a fait libérer un certain nombre de personnes qui de toute façon auraient été libérées parce qu'elles n'étaient manifestement pour rien dans cette affaire. C'était soit les membres d'un équipage qui était un équipage commercial que l'Arche de Zoé avait loué.
D'accord.
Donc c'était une opération purement commerciale, il n'y avait aucune opération de militantisme. Et donc c'est un petit peu tout ça, cette politique de Zorro, un petit peu,
est assez
contradictoire. Ouais.
Sa cote de popularité, j'ai l'impression qu'il essaie de gagner tout le temps une cote de popularité auprès des Français, avec des résultats que je pourrais dire, que je pourrais contester en tout temps, parce que l'individu, je sais pas, il fait des gaffes. Par exemple, là, l'histoire avec le président algérien, M. Reichmann, vous pourriez m'en parler un peu.
Oui. Oui, ben écoutez, c'est quand même une affaire assez extraordinaire. Alors, là encore, la presse est d'une partialité, pour ne pas dire plus, suspecte. La presse française, tout le monde nous explique, enfin tout le monde, pas une partie, la presse de droite explique que M. Sarkozy n'a pas fait repentance. Or, à partir du moment où il a dit que la colonisation avait été injuste, il a bien fait repentance, parce que la colonisation, ne l'oublions pas, a été faite sur la base, et c'était les politique de gauche qui dirigeait la France à l'époque, sur la base qui consistait à apporter, disait-il, la civilisation aux peuples inférieurs, aux races inférieures même, disait-il.
Oh.
Le mot est à la fois celui de Jules Ferry et de Léon Blum. Alors c'est vous dire que la colonisation, ça demande à être étudié de très près, et pour savoir, il faut le remettre dans son contexte, il ne faut surtout pas risquer de juger des événements d'il y a plus d'un siècle, ou un siècle et demi, avec les lunettes d'aujourd'hui, parce que ça n'a pas de sens. Mais indépendamment de ça, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi M. Sarkozy, et là je le dis uniquement en termes de principe, parce que sur le plan des faits, on sait très bien ce qu'il visait. Il visait à ramener des contrats de manière à ce que l'industrie française et les marchés qui soient plus étendus.
Oui.
Mais pourquoi M. Sarkozy n'a-t-il pas demandé, en échange de sa repentance sur la colonisation française, à M. Bouteflika de s'excuser pour les exactions des pirates barbaresques?
Exact.
Les barbaresques attaquaient les vaisseaux chrétiens, enfin les vaisseaux en général, ils prenaient des prisonniers chrétiens qu'ils rendaient esclaves, ils les châtraient d'ailleurs en plus, enfin pour ceux d'entre eux qui étaient des hommes en tout cas. Et donc, je n'arrive pas à comprendre que la presse française qui est, soit si ignorante, ou plus exactement si peu impartiale, pour ne pas mettre sur le même plan, après tout, les repentances. Toutes les repentances se valent, si repentance il doit y avoir. Mais en l'occurrence, moi je considère que l'histoire n'est pas un problème de repentance, c'est un problème d'appréciation, et on n'a pas à s'excuser du fait que des gens qui ont vécu il y a un siècle et demi ont commis des actes dont certains pourraient être jugés critiquables ou d'autres pourraient être jugés estimables. Mais c'est une très très mauvaise habitude. Et alors, M. Sarkozy a bénéficié encore en France d'un certain nombre d'articles totalement injustifiés, à mon avis, de la part de journalistes qui pourtant sont des bons journalistes souvent, mais voilà, ils ne veulent pas critiquer Sarkozy. Alors que je considère que, quelle que soit la position qu'on a, on peut être favorable à Sarkozy, on doit pouvoir dire aussi qu'il a fait une erreur. Et là, je dis personnellement qu'il n'aurait pas dû tenir ses propos, même s'il les a un peu tempérés, parce qu'il a dit, oui, dans la colonisation, il y a eu, ou plus exactement dans les drames qui ont suivi, il parlait de la décolonisation à ce moment-là, il y a eu des torts, des actes condamnables des deux côtés. Bon, évidemment, c'était une guerre. Ben, quand il y a une guerre, c'est condamnable des deux côtés, comme par définition.
Est-ce que c'est si difficile, M. Reichmann, de demander des excuses à ce pays? Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait. Ça ne me rentre pas dans la tête.
Ben ça, il ne l'a pas fait parce qu'il n'était pas venu pour ça et parce qu'il considérait qu'il fallait quand même, pour que les choses se passent bien pour l'industrie française, il valait mieux que ce soit lui qui fasse un geste. Alors, sa repentance n'a été que partielle. Bon, il aurait pu se repentir encore de façon encore pire, mais il n'empêche que c'est quand même une grave erreur, de même qu'est une erreur l'arrivée prochaine de M. Kadhafi. C'est absolument invraisemblable qu'on invite un personnage comme ça en France sous prétexte qu'il a libéré ses otages. C'est un preneur d'otages, un poseur de bombes, et c'est quelqu'un qui ne devrait pas être le bienvenu en France.
J'ai l'impression, je m'excuse, M. Reichmann, j'ai l'impression que ces gens-là ont des fois plus de droits que le petit citoyen français ou encore petit citoyen tout court. Comment se fait-il qu'on les traite comme cela?
Oui. Il y a l'intérêt que ça peut représenter, il y a des marchés à conquérir. Mais enfin, ça n'implique pas, les marchés n'impliquent pas qu'on fasse fi de tout élément moral. Je sais bien que la conquête économique est obligatoirement distante des sentiments, ce sont deux choses différentes. Mais un État ne peut pas durablement se comporter comme s'il n'y avait pas de principes moraux. Je sais bien que les États, dit-on, sont des monstres froids. En attendant, on juge les États et on juge les personnes qui vivent dans ces États à la lumière de leurs actes et non pas simplement de leurs intentions ou des bonnes paroles qu'ils peuvent prodiguer. Dans ces affaires, je constate une fois de plus que M. Sarkozy se conduit comme quelqu'un qui, au fond, n'a pas beaucoup de principes. Ça caractérise d'ailleurs tout à fait son attitude. D'ailleurs, il y a eu une phrase très révélatrice qui a été prononcée pendant la campagne électorale pour l'élection présidentielle par M. Estrosi, qui est actuellement ministre délégué à l'Outre-mer. Et il était interviewé par François, et il avait dit, concernant Sarkozy, acceptant lui-même cette formule, « Ce que tu prends est à toi ». Alors, vous imaginez les conséquences d'une telle formule, c'est Sarkozy qui dit ça, « Ce que tu prends est à toi ». Donc, vous piquez dans un sac, c'est à vous. Parce que il aurait dû au moins ajouter ce que tu prends légitimement ou après un combat qui s'est déroulé dans les règles, etc. Mais non, c'est ce que tu prends est à toi. Donc, tu prends et puis ensuite, c'est à toi. Alors, vous pensez bien que c'est des choses qui n'impliquent pas quand même, à la base, un extraordinaire sens moral. Parce que si un homme responsable ne peut pas s'exprimer comme ça.
Non, tout à fait. Et là, on me pose... Il y a des gens qui nous parlent de génocide du côté de l'Algérie. 3 millions de morts totalement. Est-ce que c'est faussé, ça? Est-ce que c'est des mensonges?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a, il y a eu des morts, bien
oui.
sûr, mais d'abord, il n'y a pas eu de génocide.
Il n'y a pas eu de génocide là-bas. Il faut pas, parce que le terme est fort.
Bah, écoutez, quand il y a une guerre et qu'il y a des morts, bon, ce n'est pas quelque chose, hélas, d'imprévu. Un génocide, c'est tout à fait différent. Il ne faut pas employer le terme de génocide à n'importe quel propos. Il y a eu, en effet, des morts pendant cette guerre. Il ne faut pas oublier non plus que les Harkis, qui étaient des Algériens, qui avaient choisi la France et qui s'étaient battus pour elle et avec elle, ont été massacrés, ils ont été abandonnés par la France quand la France est partie en 1962, et une partie d'entre eux sont venus en France où on les a accueillis de façon lamentable, puisqu'on les a parqués en quelque sorte dans des camps où ils n'étaient pas prisonniers, mais enfin c'était des camps qui étaient vraiment très sommaires. Et ceux qui n'étaient pas partis, des dizaines de milliers de Harkis ont été massacrés par le FLN. Alors vous pensez bien que quand on va faire repentance auprès de gens comme ça, il y a de quoi être un petit peu indigné. Personnellement, je crois que c'est une grave erreur et que les repentances ne s'arrêtent jamais. Vous savez, c'est comme le chantage. Céder au chantage, c'est céder au chantage suivant. La seule façon de ne pas, de résister au chantage, c'est de dire non et jamais. Si on cède, on est condamné à céder ultérieurement. Et là, M. Sarkozy, en cédant sur les principes moraux, a commis une grave erreur, à mon avis, parce qu'il affaiblit la position de la France. Il aurait dû dire, je n'ai pas à faire repentance, le passé est ce qu'il est.
Ils sont géniaux là-dedans, M. Reichmann, ils sont géniaux là-dedans pour essayer de se victimiser, vous ne trouvez pas
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, après qu'il a tenu ses propos, les Algériens interrogés ont dit « Oui, ça n'est pas mal, mais ça n'est pas assez. Ils veulent plus. » Évidemment, ils voudront toujours plus. Et même au terme d'une humiliation en bonne et due forme, ils estimeront que ça n'est pas encore assez. C'est un principe qui est vieux comme le monde. Ce type de chantage-là ou cette victimisation n'a pas de fin. La seule fin, c'est d'arrêter les choses et de refuser d'y céder.
En rafale, les auditeurs m'envoient des questions. Il y a Alter Ego Cap qui me dit ceci. Comment explique-t-il que le gouvernement ne fasse que réclamer que des visas pour les Algériens?
Alors, oui, c'est le gouvernement algérien qui en réclame. J'imagine que c'est pour régler une partie du problème du chômage algérien. Ils préfèrent exporter leurs chômeurs. Et comme ça, ce sont nos organismes sociaux qui les ont en charge. Et puis, en même temps, ils expulsent, entre guillemets, des gens qui s'expulsent eux-mêmes d'ailleurs, qui sont probablement les plus dynamiques, et les plus jeunes et les plus contestataires éventuellement. C'est les dictatures, et de ce point de vue-là, l'Algérie est une dictature, auprès de laquelle d'ailleurs, raison de plus de ne pas faire repentance, mais les dictatures aiment toujours que leurs citoyens les plus dynamiques s'en aillent. Parce que les effets négatifs sur, par exemple, l'économie, ils s'en foutent éperdument. Ce qui compte pour eux, c'est de ne pas être contestés à l'intérieur. Et en plus, ils exportent leur chômage au détriment de la France. Donc, dans cette affaire, ce n'est pas la France qui, finalement, en tire le gros lot.
Mais,
allô?
Oui, tout à fait. Excusez-moi, il y a eu une
mini coupure.
Non, il y a
eu un blanc.
Oui, il y a eu un blanc, il y a eu une mini coupure.
Oui.
Autre question aussi, le président...
Disons plutôt qu'il y a eu un noir, alors, parce que sinon, on va se faire traiter de raciste.
Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Le président algérien, là, ne devrait-il pas se sentir humilié que le seul avenir pour son peuple soit d'immigrer, ou est-ce une stratégie de conquête, comme dit Alter Ego Cap?
Non, je pense que... Enfin oui, il devrait se sentir humilié parce qu'effectivement son pays, bien que riche, parce qu'ils ont du pétrole et du gaz, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont un régime qui est tout sauf démocratique et tout sauf économiquement bien organisé. Mais ce genre de régime-là se moque éperdument de la honte. Mais vous savez, nous en France, nous devrions, nous aussi, avoir honte, car nous avons 2,5 millions de citoyens français, jeunes pour la plupart, qui ont émigré parce qu'ils n'ont plus d'avenir, estime-t-il, et ce sont les plus dynamiques. Alors, ils sont en Grande-Bretagne, ils sont au Canada, d'ailleurs, ils sont aux États-Unis, dans d'autres pays européens, au Japon, en Thaïlande ou ailleurs, enfin, bon, là où ils peuvent éventuellement trouver une activité. Mais il est certain que pour la France, c'est une très mauvaise note, parce que c'est le signe que la France n'est pas capable d'offrir un avenir à ces jeunes. Et évidemment, ce type de raisonnement vaut ô combien pour l'Algérie.
Peut-être une petite dernière question de la part des auditeurs, Monsieur Reichmann, en terminant. On vient d'apprendre, enfin moi je n'avais pas lu ça dans ce que j'ai sur quoi je suis tombé, mais que Nicolas Sarkozy. Oh oui, Nicolas Sarkozy aurait une aventure, ou coucherait plutôt, couche avec une journaliste télé, Laurence Ferrari. Est-ce que c'est possible?
Moi, je ne suis pas dans l'alcôve, donc je ne peux pas vous donner de précision, mais effectivement, c'est une rumeur qui court à Paris, et certains journaux s'en sont fait l'écho. D'autres,
oui,
d'ailleurs, se sont fait l'écho.
Ben alors, qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce que vous pensez comme objectivité des journalistes en général? Est-ce qu'il a...
Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que on songe à faire entrer, M. Sarkozy songe à faire entrer M. Jack Lang au gouvernement, d'après une autre rumeur. Alors, du coup, ce sont des rumeurs qui concernerait d'autres mœurs qui risqueraient de se développer, si vous voulez.
Alors, c'est le journal Closer qui en parle.
C'est ça. On parle. Effectivement, je n'ai pas vu, mais j'ai vu le titre effectivement sur la couverture. D'autres ont évoqué également une liaison qu'aurait le président de la République avec Rachida Dati.
Oh.
Et effectivement, on voit certaines photos où manifestement, bon, ils sont côte à côte. Vous me direz qu'il n'y a rien d'extraordinaire qu'un président de la République et une ministre soient côte à côte. Enfin, ce sont d'autres rumeurs qui courent. Et alors, tout ça est alimenté également, ça devient même comique, par la mère du président, ou plus exactement par une interview que la mère du président a donnée à Point de vue Image du Monde, interrogée donc sur le fait que son fils était redevenu célibataire. Et elle dit en substance, vous savez, avec la position qu'il a maintenant, ce n'est pas les femmes qui vont lui manquer. Alors, vous voyez un petit peu le
scénario, oui.
où on est tombé en France. C'est-à-dire que un président de la République, bon, après tout, il peut tomber toutes les femmes qu'il veut, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Un président de la République, ça ne doit pas être l'objet de ce genre de supputation. Et en particulier, pas de la part de sa mère. Bon, qu'il ait une vie, ça le regarde.
Oui.
Qu'il ait une vie digne, ça nous regarde. Mais franchement, qu'on en soit à dire, ben, mon fils est célibataire maintenant et comme président de la République il peut se taper qui il veut, excusez-moi, mais ça n'est pas vraiment ce à quoi les présidents de la République précédents nous avaient habitués.
Ah.
Je vous dirais qu'il ne faut pas être vieux jeu peut-être.
Oui, 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 attention là. Dans votre discours je sens un peu le vieux jeu.
Est-ce que vous imaginez Madame de Gaulle disant, si je disparais, mon mari il pourra se taper toutes les femmes qu'il veut parce qu'il est président. Franchement,
ouais, mais...
c'est bien. C'est burlesque, mais tristement burlesque.
Oui, 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 de garder ça un peu plus privé. Ben, enfin, c'est la vie privée. On n'a pas à savoir cela, voilà. Mais quand même, le fait qu'il se retrouve à sortir avec une journaliste télé, oui. Et, enfin, peut-être qu'on...
Ça n'est qu'une rumeur. Hein. Ça,
oui. C'est... Oh, mais attendez, souvent les rumeurs hein, en disent beaucoup plus.
Oui, effectivement, il y a des rumeurs qui se vérifient.
Oui.
Et comme nous sommes des gens prudents et sérieux, nous dirons que c'est vrai le jour où nous en aurons la preuve.
Exactement. Je vais essayer de le prendre en flagrant délit, monsieur.
Ah ben c'est très bien. Dans ce cas-là, photo. Vous empressez de nous informer.
Oui, photo et vidéo à l'appui, monsieur Reichmann.
Ah oui, tout ce que vous avez, le grand jeu.
Merci, monsieur Reichmann. On se reparle la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Je vous souhaite un excellent week-end. Merci encore.
À vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Alors, c'était le docteur Reichmann en direct de Paris, Ismaël Trépanier, votre publiciste et maréchal. Eh bien, on s'arrête un tout petit instant. Il est 7h33. Ben, vous savez sûrement que dans le coin de 7h40, 7h45, nous aurons l'honorable député fédéral André Arthur avec nous dans le show Wake Up. De 6h à 10h, Wake Up le show pour l'Amérique du Nord et de midi à 16h pour l'Europe. Maintenant, la radio 100% gratuite, c'est nous. Et vous? On revient tout de suite après ceci. live@rockick.com, MSN, Skype, pour nous écrire de manière interactive. Et aussi, si vous avez envie de discuter avec nous, eh bien, entrez l'adresse rockick.com avec le logiciel Skype. C'est facile, de l'utile à l'agréable. Voilà. Pour remplacer le fameux téléphone traditionnel, la fameuse ligne ouverte, eh bien, nous, on fonctionne avec le logiciel Skype. Vous êtes sur Internet, ma gang. Le www.rockick.com, votre station de radio. On revient.
Everybody be cool, be cool. Rocket.com. Bon les gars, c'est la dernière fois que je vous prends un chien dans les casques. C'est vraiment dégueulasse, ok? Rocket.com, ok.